La fille Marianne prend Primustazal dans ses bras et le berce en chantant une mélodie qui le guérit complètement. Mais le singe sent si bien qu'il fait semblant d'éprouver encore quelques douleurs, jusqu'au moment où il réalise que les 7 calamités se sont introduites dans sa terre miniature. Il saute des bras de sa gentille infirmière et remonte rapidement sur sa bille en disant à la fée qu'il doit vérifier si les fléaux ont créé beaucoup de dommages sur sa terre chérie. Il fait rouler rapidement sa bille vers un couloir lumineux qui vient d'apparaître devant lui comme par enchantement. Marianne fait semblant de croire Primus lorsqu'il prétend vouloir évaluer les dommages causés par les fléaux. Elle sait très bien que ce singe a tellement voyagé sur sa planète à travers les siècles qu'il sait parfaitement ce qui va arriver aux terriens et à la nature. Primus a cette manie de prétendre ne pas savoir ce qu'il sait déjà. Il faut une sacrée dose d'amour envers les terriens pour parvenir à conserver une sérénité remarquable malgré toutes les bêtises que ses habitants commettent à travers les siècles. Marianne trouve Manuel encore en compagnie de Cronos, qui ne cesse de s'excuser pour le mal commis par ses mercenaires. Il déplore cet incident en disant qu'il n'avait pas prévu que son armée déciderait de prendre l'initiative sans en avoir reçu l'ordre. Il essaie de savoir si le livre fantastique a subi des dommages. Le jeune maître du destin caresse la crinière de la jolie licorne en précisant que l'une des sauterelles a laissé son parfum infect sur un symbole qu'il venait à peine de dessiner avant son arrivée. Il s'agit de l'étoile de Mercure, qui possède la forme d'une cruche. Il ne peut l'effacer, même si cette odeur risque d'influencer les paysans, qui auront cette tendance à fuir la compagnie de cet enfant, sans trop comprendre pourquoi. C'est très grave, puisque le petit frère de Manuel devra s'attendre à être rejeté. La population trouvera toutes sortes de prétextes pour se tenir loin de lui. Cronos se sent responsable de ce malheur et déclare à Manuel qu'il peut prendre tout le temps qu'il lui faut pour préparer la fin d'Arcara. Le jeune maître du destin profite de l'un des rares moments de générosité de Cronos pour lui demander de laisser un missionnaire séjourner un assez long moment dans son royaume après la destruction d'Arcara. Sa présence sera essentielle, car il aura à réveiller un certain nombre d'entités qui se retrouveront sur Terre après avoir oublié leur nature arcarienne. Cronos lui accorde le droit de choisir ce missionnaire qui ne sera jamais limité par le temps afin de lui permettre d'accomplir son mandat. Il lui octroie le titre de missionnaire du temps, puisque lui seul sera autorisé à vivre dans son royaume aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire pour accomplir sa mission. Mais Cronos n'accordera cette permission spéciale que si les écrits précisent que ce missionnaire est celui du maître du temps. Il ne veut pas que d'autres viennent solliciter un tel privilège et demande donc à Manuel d'indiquer cette précision lorsqu'il choisira celui qui conservera tout de même son entière indépendance. Le jeune maître lui prouve qu'il comprend sa prudence en indiquant aussitôt dans son livre magique que Ega Palantour est le missionnaire du temps. Cronos se retire sans plus de cérémonie. Ega Palantour est simplement l'anagramme de tourne la page. Il faudra à présent lui trouver son vrai nom. La fille Marianne songe évidemment à son petit Perlin qui aura à subir le rejet avant même de pouvoir s'habituer à sa nouvelle identité. Manuel devine ses pensées, mais il n'est pas en mesure de changer les événements. La seule consolation de Mercure tient à fort peu de choses. Il n'aura pas à subir cette réalité pendant des milliers d'années, car le jeune missionnaire de la fin des temps va naître bientôt. Sa naissance entraînera un mouvement sans retour qui conduira Arcara à sa destruction. En attendant, Mercure éprouvera cette solitude que tous les immortels expérimentent en vivant au contact des mortels. Manuel sait cependant que son jeune frère est destiné à devenir un missionnaire sur Terre, et sera même appelé à gouverner un jour le royaume de Féerie, lorsqu'il aura retrouvé, grâce à la fée Marianne, sa nature originelle. Il voit également que plusieurs obstacles de taille se dresseront devant lui, et cela lui fera comprendre beaucoup de choses sur l'amour, la compassion et la communication entre les êtres. Il ajoute ironiquement à la fée que toutes les entités sont des immortels, qui préfèrent souvent s'accrocher à la vie dans la matière, plutôt qu'à chercher à élever leur niveau de conscience au point où elles comprendront enfin que la vie est le reflet d'un seul corps universel qui prend plusieurs images selon celui qui la voit. Elles réaliseront surtout que l'univers entier se trouve en chaque âme et que chaque âme fait partie de l'univers. Cela éviterait bien les conflits si les entités s'en rendaient compte plus souvent lorsqu'elles habitent un corps physique. Un corbeau est perché sur le buste d'Alba et croasse un moment dans le but d'attirer l'attention du seigneur fruitier. Lorsque celui-ci s'approche assez près, l'oiseau au plumage sombre lui demande de faire tout en son pouvoir pour obtenir la garde du jeune paysan qui porte le nom de Mercure. Babouk connaît la véritable identité de ce garçon et désire accorder à son serviteur l'opportunité d'acquérir l'immortalité grâce au pouvoir inconnu de Mercure. Il suffira d'obtenir de ce dernier une goutte de son sang versée dans un litre de vin. Alba plongera alors dans un état se rapprochant de la transe et pourra ainsi visiter le monde originel où se trouvent tous les grands secrets de la création. Enfin, nul ne l'empêchera de goûter à cette jouissance d'être le plus puissant de la Terre, car c'est sur cette planète que le monstre veut l'établir à la tête de la secte, et non sur Arkara, qui amorce déjà son déclin. Le seigneur fruitier regarde l'oiseau s'envoler et va s'enquérir auprès des villageois sur ce garçon appelé Mercure. Il apprend que l'enfant a déjà été placé dans 5 foyers différents, depuis que les religieux prétendent l'avoir trouvé dans le bois qui entoure la jolie pyramide. Des mauvaises langues disent que l'enfant serait le fils d'un grand prêtre, disparu étrangement depuis un certain temps. Alba devine qu'il s'agit d'Adish, fondateur de l'ordre des grands prêtres. Le seigneur fruitier est amusé par ces raconteurs auxquels il ne croit pas, puisqu'il sait parfaitement que cet enfant est un immortel et non un arcarien. L'origine de Mercure ne présente aucun intérêt pour Alban. Tout ce qu'il veut, c'est son sang, uniquement son sang magique. Cependant, il est tout de même heureux d'apprendre que toutes les familles qui tentent de prendre la charge de Mercure abandonnent leur protégé entre les mains des grands prêtres dès que son étrange comportement les dérange. Il faut dire que l'enfant a l'habitude de cesser de bouger pendant des heures et fixe devant lui sans que personne ne puisse lui parler. Un jour, son dernier tuteur a même découvert un couteau pointu dans la main du jeune bizarre. Aussi, il n'est plus question de lui trouver un autre foyer d'accueil. Ce couteau fut identifié par Primus Tazal comme étant en réalité une dague dont l'origine remonte au début des premiers rois de France. La majorité des objets ramenés par Mercure inquiètent ses parents nourriciers, ainsi que les grands prêtres, depuis qu'ils réalisent que cela ne sera plus facile à présent de lui trouver une famille. Alba vient les trouver pour demander la charge de l'enfant et reçoit un refus catégorique. Les religieux ne peuvent prouver qu'il est à la tête de la secte blanc et noir, sauf que la prudence les oblige à ne pas confier l'enfant à un tel personnage. Alba n'est nullement surpris de ce refus. Il va s'y prendre autrement pour obtenir ce qu'il veut. Il demande à ses fidèles de ne pas refuser d'accueillir Mercure si les religieux viennent solliciter leur compassion envers cet enfant qui a besoin d'un bon foyer. Le seigneur fruitier n'est pas assez naïf pour envoyer quelqu'un demander lui-même la charge du jeune rejeté. Il va sans dire que cela paraîtrait vraiment douteux aux yeux des grands prêtres. Il faut donc attendre que celui-ci le propose d'eux-mêmes. Quelques jours plus tard, l'un de ses fidèles accepte de s'occuper de l'enfant et en informe aussitôt Alba. Celui-ci lui demande de convaincre Mercure d'apprendre le métier de vigneron. Aucun religieux ne pourra lui reprocher de vouloir initier ce jeune paysan à l'art de produire les meilleurs vins du pays. Il sait qu'il est l'expert dans ce domaine et que ce sera perçu comme un honneur par la population s'il accepte de veiller personnellement à faire du protégé des religieux le futur meilleur vigneron du canton. Les grands prêtres se voient dans l'incapacité d'intervenir, puisqu'ils ne sont désormais plus les tuteurs de cet enfant. Ils tentent d'influencer les parents nourriciers pour qu'ils dirigent plutôt Mercier vers un autre maître qu'Alba. Mais ils réalisent très rapidement qu'ils perdent leur temps à convaincre des gens qui sont déjà au service du Seigneur fruitier. Deux nouvelles étoiles viennent d'apparaître dans le ciel. La première présente la forme d'un cœur et l'autre ressemble à une pierre précieuse. Pour la première fois de l'histoire arcarienne, deux enfants sont nés dans un même cocon. Les parents sont vraiment heureux d'avoir deux fils identiques, sauf qu'ils n'avaient prévu qu'un seul nom. Ils veulent celui de Cana, ce qui signifie « le bon vin ». C'est Fardat qui suggère d'inverser celui-ci pour le donner à leur autre fils. C'est ainsi que Anak et Cana deviennent les fils d'Adamas et Gratia. Tous les paysans sont heureux d'apprendre l'existence des premiers jumeaux de la planète. Et évidemment, il faut exclure Alba, qui en profite pour prétendre que si son fils Byblos possède une étoile divisée en deux, il peut dire au moins qu'il n'a pas hérité de deux moitiés de fils. Il prend plaisir à se moquer évidemment des jumeaux. Toutefois, ces remarques désobligeantes dérangent beaucoup plus la population que les parents et leurs fils. Car ce n'est un secret pour personne que le Seigneur fruitier est jaloux du grand superviseur du canton depuis toujours. Cana sera ce missionnaire de la fin des temps et n'est pas l'envoyé de Cronos, même si les écrits diront le contraire un jour, mais plutôt celui d'Absou, le maître du feu universel. C'est pour ça que Manuel a dessiné son étoile en forme de cœur. Il a déjà songé aux jumeaux de Cana en dessinant la sienne en forme de rubis, car Anak héritera à son insu de la pierre fantastique dans laquelle se trouve Arcara en miniature. Les jumeaux seront tous les deux d'excellents missionnaires, même si Cana sera beaucoup plus connu que son frère. Ils n'ont pas les mains le même destin, puisque l'un sera le missionnaire du feu d'amour et l'autre de la sagesse. Anak et Cana se complètent déjà exactement comme le corps et l'esprit. Bien que les grands prêtres sachent que l'un des jumeaux est Eugapalantour, ils s'abstiennent de prédire lequel va justement donner un nom au dragon qui habite la vallée musicale. Le grand maître Adish leur demande de ne pas se montrer plus paternel envers les jumeaux qu'envers les autres enfants du canton. Il suggère plutôt à ses confrères de visiter régulièrement le jeune Mercier pour mieux connaître son état d'esprit. Il refuse de dévoiler qu'Alba cherchera un jour à utiliser les pouvoirs de cet enfant. Dès le lendemain, un religieux trouve un prétexte pour venir visiter le bambin. Il lui pose quelques questions, bien qu'Alba cherche à lui faire comprendre qu'il est important de venir le déranger pendant qu'il enseigne à son jeune apprenti vigneron comment reconnaître les meilleurs raisins parmi les moins bons. Le grand prêtre dit comprendre ses bonnes intentions, mais qu'il doit vérifier si la mémoire de Mercier s'améliore depuis la dernière fois qu'il lui a parlé. Alba demande à son élève de s'éloigner avant de répondre à son vis-à-vis avec sarcasme que ce garçon a consommé sûrement une drogue très puissante pour avoir oublié tout de son passé. Le religieux fait semblant d'ignorer cette remarque, puisqu'il sait très bien que le Seigneur fruitier cherche à l'intimider. Alba ajoute qu'il n'a pas besoin de fouiller dans le passé de cet enfant pour comprendre sa destinée. Son étoile en forme de cruche de vin indique clairement qu'il deviendra vigneron. Le religieux relève la tête pour examiner l'étoile de Mercier, puis lui demande calmement si quelqu'un a vu ce que contient cette cruche. Non, Alors pourquoi prétendre qu'il s'agit d'une cruche de vin? Le seigneur fruitier lui répond par une grimace avant de s'éloigner à son tour. Le temps passe, et Mercure est devenu un jeune adulte dont déjà la réputation de soulard est connue partout dans le canton. Les témoins qui le voient zigzaguer sur les routes ne cessent de secouer tristement la tête en se demandant si cela valait la peine de devenir le meilleur vigneron du pays après Alba. De son côté, le seigneur fruitier perd la tête de plus en plus souvent, depuis qu'il se prend pour un dieu. Il se montre surtout encore plus exigeant envers ses ouvriers. Ses colères sont fréquentes et surtout injustifiées. S'il trouve un fruit pourri, il accuse aussitôt les cueilleurs de paresseux. Selon lui, c'est à cause de leur nonchalance chronique que des fruits pourrissent sur des branches. Pire encore, celui qui surprend à jeter un fruit à peine croqué se voit interdire l'accès au verger communautaire. Pour lui, un paysan qui croque dans un fruit pour le jeter ensuite ne mérite pas de fréquenter les vergers. Les religieux interviennent à chaque fois pour réintégrer les contrevenants. Alba accuse les grands prêtres d'encourager le gaspillage et leur demande même à quoi cela lui sert de produire les meilleurs fruits s'ils sont gaspillés comme les moins bons. Les religieux savent que ce dictateur est simplement frustré de ne pouvoir imposer ses lois aux paysans qui viennent cueillir un bien qui leur appartient. Alba n'est pas le propriétaire de ses vergers, qui sont la propriété de la communauté. Par conséquent, les grands prêtres n'hésitent jamais à lui rappeler qu'il n'a pas à punir quelqu'un qui préfère croquer dans plusieurs fruits plutôt que d'en manger quelques-uns et oublier la saveur des autres. Le couple qui loge Mercéur depuis qu'il est enfant se fait accuser de négligence par ses voisins. Ce jeune homme est exploité par son patron depuis plusieurs années sans que les tuteurs n'interviennent pour au moins retirer leur protégé des vignobles. Les voisins ignorent que ce couple fait partie de la secte secrète d'Alba et que c'est lui qui décide tout depuis toujours. Le résultat est catastrophique si l'on considère que Mercéur n'a pas d'amis, pas de liberté et ne peut même pas songer à fréquenter les paysannes. Il travaille au vignoble sans arrêt, où sa seule consolation arrive lorsque son patron lui demande de venir évaluer les nouveaux vins. C'est un moment de répit qui se termine toujours par une beuverie. Alba l'encourage à boire énormément et lui demande ensuite de verser une goutte de son sang dans un litre de vin. À chaque fois, son employé est étonné par une telle demande, puisqu'il ignore sa nature originelle. Son patron parvient tout de même, à la fin, à obtenir une goutte de ce sang immortel. Mercéur s'écrase ensuite dans un coin, en se tenant la tête à deux mains, miné à cause d'une affreuse migraine qu'il éprouve à chaque fois qu'il cède aux pressions d'Alba. Puis son corps lui fait très mal, comme si quelque chose tentait de s'en libérer. De son côté, l'extase que connaît Alba est tellement intense qu'il s'élève parfois à quelques mètres du sol. Il voyage alors dans un monde où, normalement, la recherche des grands secrets du monde devrait l'inciter à devenir plus sage. Mais le seigneur fruitier est un être si orgueilleux que l'essence de l'immortalité qu'il obtient pèse très peu parmi tous les pouvoirs monstrueux qui se colle à lui lorsqu'il traverse le monde des ténèbres. Ce lieu est celui des confusions, qui n'existe pas dans une quelconque dimension, mais simplement dans l'état d'esprit de celui qui voyage en dehors de son corps. Il voit des illusions prendre forme, comme dans la réalité. Dans le cas du seigneur fruitier, ce sont des personnages qui l'encouragent à poursuivre ses folles ambitions et qui se disent même disposés à l'aider. Puisque c'est le pouvoir qu'il veut, les énergies négatives se collent à lui pour l'inciter à commettre des méfaits. Il devient peu à peu aussi noir à l'intérieur de lui que Bahabouk. Alba est en mesure de matérialiser ses forces obscures en leur donnant même l'apparence des paysans. S'il ne le fait pas, c'est simplement à cause des grands maîtres du Mont Bellaport qui sont vraiment doués pour renvoyer de tels monstres à leur point d'origine. Mercure se promet à chaque fois de ne plus offrir son sang à ce vampire et oublie sa promesse dès que le Seigneur Fruitier lui dit qu'il aimerait l'adopter. Il veut un père, même si cela l'oblige à ne pas dénoncer les étranges demandes du Seigneur Fruitier. Mercure réalise très bien que son patron part en transe dès qu'il a bu ce vin mêlé à du sang, car il n'a nul besoin de se faire expliquer ce phénomène qu'il connaît si bien. Depuis peu, aussi, Alba prétend qu'il est en mesure de lui fournir des informations sur ses origines, et il lui cède ce qu'il veut, car il se questionne beaucoup. Il faut savoir que Mercure sent qu'il n'est pas comme les autres paysans, et il n'est jamais parvenu à pénétrer dans le monde originel depuis qu'il a chuté dans l'océan des créations. À chaque fois qu'il s'approche de sa terre patrie, une voix lui interdit d'aller plus loin, et il lui répète à chaque fois qu'il doit d'abord purifier son sang. Il ne comprend pas encore que ce sang n'est pas celui qui coule dans ses veines, mais son essence originelle. Comme on le sait, il n'y a que la fée des eaux pures qui puisse accomplir ce prodige. Tout de même, la naïveté de Mercure lui laisse supposer que ce fichu Alba sera peut-être plus chanceux que lui pour parvenir à s'introduire dans le monde originel. Cependant, non seulement ce monstre n'est pas autorisé à y rentrer, mais il ignore sans doute aussi que son immortalité ne lui donne pas pour autant sa place parmi les Olympus. Le corbeau vient demander un soir à Alba d'adopter Mercure, car les voisins de ses présents tuteurs risquent de parvenir à la longue à ne plus en prendre la responsabilité. Babouk est catégorique en disant que les grands prêtres n'attendent que cette occasion pour retirer le jeune immortel des vignobles et ainsi priver son serviteur du sang de son meilleur vigneron. Alba se montre d'une telle douceur envers Mercure que son propre fils en devient jaloux. Le Seigneur Fruitier trouve mille et un talents en son élève et finit par lui dire qu'il aimerait bien l'avoir comme deuxième fils. Mercure ne tient plus en place. Il court partout pour dire qu'il va être adopté. Les grands prêtres reçoivent évidemment la demande d'adoption officielle et tentent alors de faire comprendre au pauvre jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, que le Seigneur Alba n'est peut-être pas le père idéal et considère que ce dernier exige beaucoup trop de lui comme vigneron. Mais l'orphelin est disposé à oublier cela, puisqu'il veut un père à tout prix, comme les autres jeunes. Malheureusement, aucun villageois accepte de se sacrifier pour faire également des demandes d'adoption, puisque personne ne veut se retrouver avec un alcoolique sur les bras. Cela oblige les religieux à considérer la demande d'Alba, qui se dit très fier d'avoir un autre fils, même si personne ne le croit. Son fils Byblos est averti de ne pas causer d'ennui à son nouveau frère, qui possède à présent sa place à la table familiale. Le jeune sculpteur, qui ignore les pratiques de son père, comprend mal sa décision d'adopter un tel soulard. Depuis son adoption, Mercure possède un peu plus de liberté. Il fréquente régulièrement la carrière de Pierre Cactus, où il aime bien s'entretenir avec Gerbin, le contremaître. Celui-ci lui raconte toutes sortes d'histoires fascinantes et même très amusantes. Le fils adoptif va également nourrir les dragons verts à l'occasion, qui aiment bien les fleurs de nénuphar. Mercure ne refuse plus de donner du sang à son paternel. Gerbin le trouve un après-midi assis dans un coin de la carrière, complètement ivre. Le jeune contremaître ne le juge pas et essaie de l'aider à se relever, quitte à le ramener chez lui s'il le faut. Mercure le regarde d'un air désespéré. Il ne sent pas la boisson et son langage n'est pas altéré par l'alcool. Pourtant, il refuse d'être reconduit chez lui malgré qu'il marche en zigzagant. Il raconte tout de même à son ami qu'il vient d'apercevoir son père se disputer avec un corbeau qu'il accusait de l'avoir induit en erreur, en prétendant pouvoir faire en sorte de le plonger dans le monde originel. mais des forces le repoussent à chaque tentative. Il a dit qu'il veut savoir du maître comment s'introduire dans cette dimension des couleurs, puisqu'il saura tout sur l'origine du monde. Mercieux prend des risques énormes en racontant cela à son ami. Sans doute a-t-il peur. Craint-il découvrir ce lien qui existe entre le sang qu'il donne à son père adoptif et la folie qui ronge celui-ci? Le jeune contremaître ignore pourquoi son ami a peur. Il sait cependant qu'il est dans l'intérêt de Mercieux de ne pas répéter à d'autres de telles révélations. Après son départ, il va visiter le grand prêtre Lemu. Le chef des religieux l'invite à prendre le thé. Il trouve étrange de se faire demander par son ancien élève si les Kourkourounins sont ivres lorsqu'ils marchent en zigzagant. Lemu fait semblant de ne pas comprendre sa question. Alors Gerbin lui pose la question autrement lorsqu'il demande si Mercieux est ivre lorsqu'il marche en zigzagant. Lemu suppire avant de répondre qu'il n'est pas plus ivre que les Kourkourounins. Gerbin lui demande alors s'il est possible que Mercieux prépare une sorte d'élixir pour son père adoptif, quelque chose qui pourrait se comparer au dinerbin. Le grand prêtre n'a pas le droit de lui répondre, mais lui fait un petit sourire qui confirme les craintes du jeune contremaître. Il se lève et dit ironiquement que s'il était un corbeau, sans doute se moquerait-il des gardiens de l'enclos. Gerbin ne veut pas donner sa source d'information pour ne pas compromettre Mercieux. Le grand prêtre Lemu, Dorgon et Fardat se promènent sur le mur de l'enclos en se disant qu'ils ont manqué de jugement en oubliant cette possibilité de voir Baabouk se servir d'un oiseau pour dicter ses volontés à ses dévots. Dorgon avoue qu'il aurait été prudent de placer une grille pour empêcher un volatile de s'introduire dans la caverne par le puits de lumière. Il faut s'assurer que le monstre se sert vraiment d'un oiseau comme messager. De nouveau, Dorgon fait appel aux animaux et surtout aux oiseaux pour surveiller discrètement l'enclos et les environs. Le message se transmet parmi les oiseaux autres que les corbeaux. Quelques jours plus tard, deux tourterelles viennent se poser devant la hutte de Dorgon. Lorsque le protecteur de la planète les invite à entrer, elles vont se poser sur le dossier d'une grosse chaise. Selon elles, un corbeau s'est introduit par le puits de lumière et s'y trouve encore. Dorgon leur demande de rassembler plusieurs oiseaux en vue d'attraper ce messager du monstre lorsqu'il sortira de la caverne. Baabouk trouve anormal d'entendre des battements d'ailes au-dessus du puits de lumière qui résonne trop fort pour être le fait d'un seul volatile. Il se doute aussitôt que Dorgon vient de découvrir son messager et préfère le dévorer plutôt que d'être découvert. Le monstre vient de perdre à présent tout contact avec ses dévots. Il rugit en voyant le vaisseau de Dorgon passer lentement au-dessus de la caverne, s'immobiliser et laisser sortir une énorme grille de la spirale qui vient obstruer le puits de lumière. Alba, de son côté, attend toujours la réponse du maître, et, puisqu'il tarde, son orgueil l'incite à croire que Baabouk refuse d'admettre qu'il ignore la réponse. Il ose même se prendre pour cet élève qui finit par dépasser son maître. Mercieux ne risque pas d'être ennuyé par son père adoptif pour avoir dévoilé à Gerbin l'existence du messager de Baabouk. Les grands prêtres ont ignoré la source d'information du contremaître de la carrière, donc ne peuvent prendre l'initiative d'aller questionner Alba au sujet de ce corbeau de malheur. Accompagnés de leurs parents, les jumeaux se rendent devant la fameuse tour en or pour admirer le cœur fantastique. Tous les paysans aiment en faire autant depuis que des conteurs affirment que le souverain entend parfaitement le discours de ses sujets lorsqu'il lui adresse des demandes particulières, ou simplement pour le remercier pour sa bonté légendaire. Cana discute avec son jumeau lorsqu'une force mystérieuse le soulève dans les airs. Le jeune paysan, âgé d'une douzaine d'années, ignore ce qui se passe et demande aussitôt de l'aide. mais peine perdue. Il se retrouve au sommet de la tour, exactement où la pointe du cœur fantastique repose sur la pyramide. L'enfant a peur jusqu'au moment où une petite voix lui demande de ne pas craindre son énergie. Canard et Alice, il vient d'entendre le cœur lui parler à l'oreille. Cette sensation est si douce qu'il sourit en silence. Le jeune souverain lui dit qu'il connaît très bien sa réputation de joueur de tour. Personne ne peut se vanter dans le canton d'avoir été épargné par les jumeaux. Ils jouent constamment des tours partout dans leur entourage, et personne n'est épargné, que ce soit un paysan, un cognien, les grands prêtres, et même les animaux en parlent. Le joli cœur lui demande donc de lui raconter l'une de ses meilleures espiègleries. Canard lui dit qu'il a profité du moment où un jeune cognien prenait son bain dans un étang pour introduire des canards dans le vêtement que celui-ci avait déposé sur le bord de l'eau. Lorsque ce dernier aperçut son linge se promener devant lui, sa seule réaction fut de fuir nu vers son village. Le souverain rit tellement fort que des jets de lumière sortent par saccades de son cœur d'enfant. Il demande ensuite à Canard de venir s'entretenir souvent avec lui. Après en avoir fait la promesse, le jeune visiteur est saisi par une autre force, produite par les glaçons magiques des grands prêtres. Il manipule l'intrus à distance avant de le déposer en douceur devant Colombin, le gardien de la tour. Celui-ci lui fait alors remarquer qu'il est interdit de s'aventurer à l'intérieur du cercle. Canard lui répond naïvement qu'il n'a même pas eu le temps de voir ce cercle avant de se retrouver au sommet de la tour. Il comprend cependant l'inquiétude de Colombin qui tient à sa réputation de gardien et promet de lui demander à l'avenir la permission d'y aller avant de revenir discuter avec le cœur royal. Le grand prêtre Lemu s'approche en riant de voir la candeur d'âme du jumeau et pose ses mains sur sa tête en lui disant qu'il l'autorise à traverser le cercle interdit à la condition que chaque fois, ce sera le cœur lui-même qui utilisera son énergie pour le conduire jusqu'à lui. Le religieux vient de découvrir lequel des jumeaux est le missionnaire, mais comme il ne veut pas brusquer la mission de ce jeune paysan, il garde cette information pour lui. Ses parents, eux, sont perplexes, ils n'y comprennent rien. Ils posent d'innombrables questions aux religieux, puisque leur fils aurait dû, logiquement, être cuit comme un œuf au sommet de la tour. Ce fut un mystère, mais pour Adamas et Gracia, ce n'est en fait qu'un début, car ils n'ont encore rien vu. Les jumeaux sont toujours ensemble. Ils s'amusent souvent à se faire passer l'un pour l'autre lorsqu'il s'agit d'aller s'excuser à des voisins pour avoir planté des œufs de canne sur leur parterre. Anak est vraiment le complice de son frère et ne jalouse nullement ses étranges pouvoirs. On dirait même qu'il s'en accommode exactement comme s'il faisait partie de la personnalité de Canaan. Le fait de voir son jumeau se faire soulever dans les airs ne l'impressionne plus, depuis qu'il a vécu bien d'autres situations étranges en sa compagnie. Quelques jours avant cet événement, son frère a traversé la rivière Emerodia en courant sur les eaux. Puis, peu de temps avant cela, il vit Cana disparaître près de lui pour le retrouver l'instant d'après au bout d'un sentier. Cela prouve selon lui que les grands prêtres ne sont pas les seuls à pouvoir accomplir ce prodige grâce à leur glaçon magique. Anak est habitué à vivre de tels phénomènes et ne s'en étonne plus outre mesure. Depuis un certain temps, Dorgon se fit sur eux pour venir s'occuper de son vaste jardin de lotus bleu. En cela, les jumeaux sont fiables et serviables, mais Anak se demande toutefois pourquoi les visiteurs qui doivent rencontrer les mutants se plaignent de devoir gravir les quelques 2000 marches qui mènent au sommet de la montagne. Il ne se souvient pas d'avoir eu à monter plus qu'une centaine de marches pour aller arroser le jardin de Dorgon. Il se doute évidemment que les pouvoirs étranges de son frère y sont pour quelque chose. Le ciel arcarien devient de plus en plus rouge. Les grands prêtres se rassemblent sous la tour en or pour s'y entretenir avec le jeune souverain, qui apparaît toujours sous forme d'une boule de feu. Il leur dit qu'il a longuement discuté avec le maître du destin et qu'ils ont décidé d'un commun accord de corriger certaines rumeurs parmi les religieux qui laissent supposer que le peuple arcarien deviendra immortel sur sa nouvelle planète. Le cœur royal désire leur faire comprendre qu'ils se trompent en prenant le monde intemporel pour une dimension où la mort n'existe pas. La différence entre le plan temporel et intemporel peut se comparer à un gros livre où le passé, le présent et l'avenir coexistent dans le même volume. Chaque page contient un certain nombre d'événements temporels puisqu'ils se trouvent sur chaque page spécifique. Par contre, l'ensemble des pages que peut feuilleter un lecteur peut être considéré comme l'ensemble de ce qui se passe dans le monde intemporel. Une page, c'est temporel, et le livre dans lequel elle se trouve serait l'intemporel. Pour un livre, la première ou la dernière page se lit aussi clairement. Un immortel vit dans l'ensemble du livre, et non seulement sur l'une d'elles, comme dans le monde temporel. Le jeune souverain avoue d'une voix qui rappelle celle d'un enfant grondé par son grand frère, qu'il n'a pas été sage en maintenant les paysans en vie si longtemps. Il a finalement compris ce que le maître du destin tente de lui expliquer, depuis que Cronos exige de tourner la page. Il croyait aimer les entités en les laissant vivre dans un corps aussi longtemps. Tout ce qu'il a obtenu, c'est qu'elles cessent de voyager dans l'éternité. Il compare cela à un voyageur qui se propose d'évoluer en parcourant chaque page du gros livre de la vie, mais quelque chose le retient toujours sur la même page. Il finit par la connaître par cœur et perd le goût de voyager. Il n'a plus d'intérêt ou de curiosité envers ce gros livre qui contient la connaissance et l'expérience. La mort ne peut venir le chercher pour un autre voyage. Le cœur royal reconnaît qu'il est responsable d'avoir retardé l'évolution des entités en les retenant trop longtemps dans son royaume. Il croyait les aimer en agissant ainsi, jusqu'au moment où la réalité est venue lui ouvrir les yeux. Arcara doit disparaître, qu'il le veuille ou non. C'est pour cela qu'il ne veut pas répéter cette erreur sur l'autre planète. Le peuple devra vivre le jour et la nuit. Éprouver le besoin de dormir, vieillir, mourir et quitter cette planète pour connaître d'autres niveaux de conscience ailleurs. Il veut également retirer cette illusion de croire qu'on peut traverser dans l'autre dimension sans d'abord mourir. Il n'y a que les immortels ou Olympus qui puissent voyager dans les deux mondes sans devoir à chaque fois traverser un corridor où les entités doivent attendre d'être entièrement libérées de leur matière physique avant de pouvoir passer dans un autre monde. Lorsque la planète disparaîtra, le peuple ne verra qu'une lumière, puis l'instant d'après, s'imaginera voyager dans le cosmos avant d'arriver dans l'autre dimension où se trouvera la nouvelle Arcara. Les paysans, coniens, animaux et insectes reprendront un corps identique à celui qu'ils auront quitté sans même le réaliser. Le cœur royal prépare déjà les grands prêtres à la fin du monde et leur révèle plusieurs choses. Sur des événements qui se produiront bientôt. Les jumeaux découvrent de la teinture verte près des deux grosses tortues de Phinibus et d'Ebinibus. Les conteurs fouillent une petite colline à la recherche de maupoussins, les plus petits insectes de la planète. La carapace de celui-ci possède ce pouvoir de permettre aux conteurs de voir et entendre tout ce qui se passe dans le monde minuscule des insectes. Donc, les farfelus vieillards, qui portent toujours leur bonnet de Père Noël, sont trop occupés pour remarquer les jeunes espiègles teindre leur monture d'un beau vert qui s'apparente tellement à celle de l'herbe que les deux myopes et distraits personnages ne les remarquent pas en revenant de leur exploration. L'un d'eux bascule par-dessus sa monture et l'autre se moque de lui à cause de la teinture qui recouvre à présent sa tunique rouge. Les conteurs sont beaucoup plus futés que les jumeaux, puisqu'ils font semblant de ne plus voir de tortue. Ils jouent le jeu, comme deux enfants étonnés par ce prodige. Les jumeaux s'empressent de sortir de leur cachette pour leur dire qu'ils viennent de leur jouer un bon tour. Ce qu'ils ignorent cependant, et qu'ils comprendront beaucoup plus tard, c'est pourquoi cette fichue teinture se trouvait là, par hasard. Les conteurs voulaient pouvoir explorer des endroits discrètement, et se sont adressés aux cogniens pour obtenir une teinture en mesure de camoufler la présence de leur tortue. Ils ont déposé deux pinceaux et deux chaudières près de leur monture, avec intention de les teindre dès leur retour de la colline. Les jumeaux ont fait le travail pour eux, en croyant leur jouer un bon tour. Nous aurions le goût de dire, tel est pris qu'ils croyaient prendre. Il est tard, et Anak aimerait bien revenir au village, lorsqu'il quitte ce champ, où les deux conteurs s'éloignent en donnant l'impression de flotter sur l'herbe. Les jumeaux marchent un moment sur un sentier, lorsque tout à coup, sans avertissement, Kana change de direction. Son jumeau lui fait remarquer qu'il n'y a rien par là et qu'ils seront en retard pour le repas s'il ne revient pas maintenant. Mais Kana semble ne rien entendre, mais n'en est-il pas ainsi chaque fois que quelque chose d'étrange se prépare? Anak le sait tellement bien qu'il choisit de lui demander s'il préfère être seul. Son jumeau lui demande en souriant s'il a déjà vu des arbres entiers dans la forêt enchantée. Anak le corrige en répondant qu'il ne s'agit pas d'arbres entiers, mais d'entités. L'air songeur de son frère lui dit que son jumeau s'apprête à rechercher ce fameux bois magique. Alors il le prévient que leurs parents ne les autorisent pas à entrer dans cette forêt sans permission. Ils ne font que répéter ce qui se dit, car en réalité, ce n'est ni Adamas ou Gracia qui pourrait accorder une telle faveur, et encore moins interdire à Kana d'y entrer. Anak sait tout ça, mais cherche uniquement un prétexte pour contenir la curiosité de Kana. Finalement, lorsqu'il réalise qu'il perd complètement son temps à tenter de le ramener à la maison, il s'éloigne en maugréant qu'il va être en retard. Un joli papillon vient taquiner le visage de Kana et celui-ci l'attrape dans ses mains. Il écarte légèrement ses doigts et tente de voir l'insecte qu'il vient d'emprisonner, mais une petite voix l'interpelle en lui demandant d'ouvrir ses mains. Ébahi, il s'exécute et s'aperçoit alors que c'est une jolie fille qui est assise au creux de ses paumes. Elle s'excuse d'être passée trop près de lui. Pour démontrer son bon vouloir, elle fait celle qui lit les lignes de sa main. Elle lui dit qu'il est amoureux d'une jolie paysanne, et Kana retient son souffle, car il aime en silence la fille du gardien de la tour pyramidale, qui s'appelle Osis. Le jeune amoureux lui demande aussitôt si Osis l'aime autant que lui. La petite fille se contente de lui répondre qu'il devra tenter de sonder son cœur pour le savoir. Elle essaie de lui faire comprendre que cette paysanne ne sera jamais son épouse. Elle lui dit que lui et Osis sont comme les deux ailes d'un joli papillon amoureux. Lorsque celui-ci se pose sur une fleur, ses ailes se rapprochent si près qu'elles peuvent s'embrasser pendant un court moment. Puis, lorsque le papillon décide de reprendre son vol, ses ailes reprendront chacune leur mission de voler. Ils ne pourront s'embrasser de nouveau qu'au moment où l'insecte trouvera une autre fleur sur laquelle il désirera permettre à ses ailes de s'embrasser de nouveau. Kana est encore trop jeune pour comprendre qu'un missionnaire a besoin d'une âme sœur pour le soutenir dans la vie. En fait, comment lui dire ou encore lui faire deviner que l'amour d'Osis dépasse toute forme d'attachement émotif ou possessif? Osis lit déjà dans le cœur de ce garçon, et Kana le sait si bien qu'il n'ose jamais la regarder droit dans les yeux. La fille papillon s'envole en laissant le futur missionnaire seul avec ses pensées. Kana décide de s'en retourner chez lui et marche un moment lorsqu'il se fait aveugler tout à coup par une lumière. Il distingue ensuite une forme qui prend l'aspect d'un vieillard bienveillant. il se retrouve devant le grand maître Adish, le maître de la conscience éveillée, qui lui explique qu'il va veiller sur lui, peu importe où il se trouve, et l'éclairera lorsqu'il sera tenté de se décourager dans la vie. Il demande à l'enfant de s'agenouiller et pratique une légère égratignure sur son front en se servant de son ongle. Une intense lumière s'introduit alors dans la plaie. Le maître disparaît et lorsque Kana se relève lentement pour se toucher le front, il ne ressent plus aucune douleur et il n'y a dorénavant plus aucune trace de cette lésion pratiquée par le puissant maître. Soudainement, le jeune adolescent entend une étrange mélodie qui semble provenir de toutes les directions à la fois. Le sentier disparaît et tout le décor par la suite. Kana sait qu'il se trouve à présent dans la vallée musicale. Il s'y promène un court moment avant d'entendre de nouveau cette musique qui s'informe si ce visiteur est le bienvenu dans la vallée. Kana doit se boucher les oreilles jusqu'au moment où la voix du grand maître Adish demande au son de laisser le visiteur tranquille. Celui-ci pourra maintenant se promener partout dans ce lieu où même le reflet des arbres sur le sol produit une douce mélodie. L'enfant aimerait bien passer l'éternité dans ce paradis. Les prés sont recouverts de fleurs et d'arbustes inconnus du jeune visiteur. Il voit aussi des petits arcs-en-ciel sortir du sol pour ensuite faire des bonds prodigieux tels des gazelles en liberté. Kana longe bientôt un étroit torrent qui le conduit directement devant une chute d'eau provenant du sommet d'un volcan éteint. Il est fasciné par cette chute musicale. Il essaie en vain de voir où elle prend sa source, puisqu'un épais nuage entoure le sommet du volcan et empêche ainsi le visiteur d'obtenir cette information. Il voit des vignes à raisins sur l'un des côtés de la chute, et de l'autre se trouvent quelques jolis rosiers. L'enfant parvient, avec une rare habileté, à se confectionner une couronne de fleurs. Le visiteur se risque ensuite à croquer dans un raisin de la taille d'une prune et s'enivre aussitôt. L'effet ne dure que quelques secondes, sauf que l'enfant préfère ne pas terminer son fruit. Il va plutôt se doucher sous la chute musicale. Il rit en plaçant ses mains sous cette pluie multicolore qui improvise une étonnante musique. Intrigué, Kana découvre une crevasse derrière la chute et s'y introduit prudemment. Il se retrouve alors à l'intérieur de l'immense cratère et remarque que les parois suintent à grosses gouttes, et lorsque celles-ci tombent sur le sol aussi lisse qu'un miroir, des sillons se forment comme sur la surface de l'eau. Pourtant, l'enfant est convaincu de marcher sur quelque chose de solide, et effectivement, il avance lentement vers un escalier d'ivoire qui se divise en deux. Le premier escalier est éclairé par la lumière du jour et monte en tire-bouchon jusqu'au sommet du cratère, alors que le deuxième descend jusqu'aux entrailles de la planète. Kana trouve étrange de voir de la lumière à l'intérieur du sol, qui ressemble en plus à celle du jour. Une voix qui lui rappelle celle du maître Lemu lui dit que cet escalier conduit à une fontaine magique et que celui qui boit de son eau verra sa vie se prolonger. La voix paternelle propose alors à l'enfant de monter l'escalier qui mène au sommet du cratère. Elle ajoute qu'il pourra ainsi contempler les environs. Kana s'exécute et trouve l'endroit vraiment superbe. L'observatoire se trouve si haut que le sommet du cratère ressemble à une grosse marmite remplie de nuages. Kana possède une vue exceptionnelle du canton d'Atlantis. Lorsqu'il voit à cette hauteur les immenses champs de blé, les vergers et les vignobles, l'observateur découvre en même temps pourquoi les lunaticiens ont choisi justement le mot « paysan » pour désigner la nature des Arcariens. La voix du maître Lemu demande au garçon de ne pas s'étonner de voir à présent dans le ciel une vision de l'histoire arcarienne. L'enfant assiste à la naissance des planètes qui vont devenir Luminatis, Pyrrha, Bizarra, Centaure, Mutant et Chaos. Il comprend ensuite beaucoup mieux la nature des Luminaticiens, des Mutants, des Giniardiens, des Coniens et des Paysans aussi. Il voit tellement de choses qu'il ignore combien de temps a duré cette projection dans le passé. Cana entend alors le mugissement terrible de Babouk et préfère redescendre en vitesse de son observatoire. Il sort de la faille en se demandant sérieusement si le monstre n'est pas à sa poursuite. Cana se sent à peine remis de sa frousse lorsqu'il se retrouve de l'autre côté de la chute. Au même instant, un fort étrange volatile bat difficilement des ailes au-dessus du torrent et chute finalement dans celui-ci. La secousse est telle que l'enfant tombe à la renverse et est entraîné malgré lui par le courant. Il ne peut ralentir sa descente vers le dragon, toujours immobile et véritablement étendu en travers du cours d'eau. Le jeune adolescent a peur et cherche à se relever à tout prix. Mais, peine perdue, son destin le mène directement sur les flancs du monstre. Cana remarque aussitôt la présence d'une pierre qui s'est introduite sous l'une des ailes du volatile. Il réalise alors que le blessé souffre beaucoup, qu'il garde les yeux grands ouverts et surtout qu'il respire avec difficulté. L'enfant n'hésite qu'un instant et lui retire rapidement cette pierre. Il pense ensuite à la plaie en appliquant sa couronne de fleurs sur celle-ci. La blessure disparaît rapidement. Cana s'empresse alors de sortir du torrent dès qu'il réalise que le dragon cherche à battre des ailes de nouveau. Le jeune soigneur n'ose avouer qu'il n'a jamais vu un animal aussi étrange. La bête se redresse lentement sur ses pattes et s'éloigne en prononçant le mot « merci ». Le dragon, ou plutôt la dragonne, préfère s'asseoir à distance, puisqu'elle sait très bien que ce garçon éprouve de la crainte. Elle a raison, car de nouveau, la curiosité de Cana reprend le dessus et la conversation s'engage entre eux. La voix de la dragonne est si douce et maternelle que Cana oublie rapidement qu'il se trouve devant un monstre et adopte plutôt une attitude amicale. Il raconte à l'étrange animal qu'il connaît trois gentils dragons verts à qui les enfants ont donné des noms. Il explique que Bouilli est celui qui passe tout le temps dans les eaux chaudes du marais. Puis Boule-Boule devient rond comme un gros ballon lorsqu'il mange des nénuphars. Il accepte souvent de laisser ses jeunes amis se suspendre à ses pattes afin de les promener dans les airs. Finalement, le plus gros des dragons verts est Bouffi. Le monstre écoute d'un air attendri les jolis noms que les enfants ont donnés aux dragons avant de demander quel nom serait approprié pour lui. Cana réfléchit un moment. La voix du maître Lemu lui suggère de choisir Chimo. La dragonne opine d'un léger signe de tête. La voix insiste pour qu'il ajoute le préfixe « belle » au mot déjà choisi, en rappelant gentiment au garçon qu'il ne s'adresse pas à un dragon, mais plutôt à une dragonne. Cana n'hésite pas à prononcer le nom secret de la gardienne de la rose fantastique en disant « belle Chimo ». La dragonne opine cette fois d'un signe affirmatif. Le jeune adolescent lui demande comment il peut sortir de cette vallée, car il croit qu'on doit s'être inquiété pour lui. Il indique qu'il a sans doute passé plusieurs années à cet endroit. La dragonne lui explique que, contrairement à sa perception, son absence n'aura duré que quelques heures. Elle lui propose ensuite de le reconduire près de chez lui, à moins qu'il éprouve du dédain à monter sur elle. Cana lui sourit et n'hésite pas à se grimper rapidement sur la dragonne, qui s'envole ensuite en emportant le jeune héros vers le canton d'Atlantis. La panique s'empare des travailleurs de la carrière lorsqu'ils voient la belle Chimo planer au-dessus de celle-ci. Le grand prêtre Lemu, qui se trouve être là en compagnie de Gerbin, tentent tous les deux de ramener au barcail les pauvres fugitifs. Mais la dragonne ne facilite pas leur travail, car celle-ci s'amuse à lancer son feu à quelques mètres seulement de Cognien, pour ensuite cracher son eau sur le début d'incendie qu'elle vient elle-même d'allumer. Elle donne vraiment l'impression de vouloir impressionner son jeune cavalier, bien que ses gestes servent au contraire à donner un avertissement à la secte blanc et noir, qui comprendra de ne jamais s'aviser à nuire à la mission du jeune héros qu'elle voyage sur son dos. Lemu sourit en voyant Alba Et quelques amis se jetaient face contre terre lorsque la dragonne s'amuse à les frôler de ses pattes épineuses. Ils ont eu si peur de ce monstre que le jeune missionnaire ne les verra pas se mettre en travers de sa route. Cana est enfin déposé à quelques kilomètres de son village, puisque la dragonne ne tient pas du tout à se montrer aux habitants que lorsque cela est vraiment nécessaire. Le jeune cavalier affiche un air déçu, car il se retrouve non seulement à pied, mais aussi parce qu'il souhaitait impressionner ses amis en voyageant sur un dragon unique en son genre. Il marche donc sans se presser lorsqu'il est interpellé par l'Emu. Celui-ci est maintenant très vieux et marche toujours en compagnie d'adeptes, son élève accompagnateur. Il trouve surtout utile d'utiliser la canne ornée d'un poisson en or qu'il a trouvé autrefois sur le bord d'une route. Cana s'empresse de venir s'agenouiller devant le vieil homme, qui pose alors ses mains sur sa tête en lui demandant ironiquement si cela est dans son habitude de voyager sur le dos d'un dragon. Le jeune adolescent s'excuse pour le tumulte créé par la belle Chimo et entend aussitôt le petit rire amusé du grand prêtre, qui lui répond ensuite qu'un peu d'exercice ne pouvait faire du tort aux travailleurs. Il demande au garçon s'il peut arroser les jolies fleurs de lotus de Vargon. Cana lui répond qu'il le fera avec plaisir, sauf qu'il déplore l'attitude du mitan Miotis. Il raconte alors qu'il se préparait à emprunter l'escalier qui mène chez Dargon lorsque son frère Anax s'est fait saisir par la cheville en passant devant un arbuste. Miotis lui a demandé s'il avait la permission de passer sans son autorisation. Il a fallu que Pallor et Bélis interviennent pour qu'il lâche Anax. Selon Cana, le rire terrible de Miotis était très déplaisant. Ce qu'il trouve encore plus triste dans tout cela, c'est que son jumeau a eu très peur et qu'il a même pleuré en tentant désespérément de se libérer. Cana montre son poing pour indiquer qu'il en a vraiment assez de voir Miotis se les ennuyer à chaque fois qu'ils vont s'occuper du jardin de Dargon. Le grand prêtre rassure le jeune adolescent, mais qui insiste tout de même pour que celui-ci parle de cela à Dargon. Selon lui, Miotis n'est pas autorisé à déranger les visiteurs qui se rendent chez le protecteur de la planète. Après le départ de Cana, l'élève demande d'une voix réservée si ce mutant ne se montre pas un peu trop agressif dernièrement. Le mule lui répond qu'il craint surtout de le voir dévorer quelqu'un. La prudence exige qu'on le garde à l'œil encore plus. Comme à chaque matin, la famille d'Adamas fait ses remerciements au cœur royal pour sa bonté. Puis chacun arrose sa fleur de cristal en se servant d'un petit vase en forme de conque marine. Il est facile de deviner ce moment du jour, puisque le matin, la lumière est plus intense. Jusqu'à ce jour, personne n'est encore parvenu à deviner à quel moment les fleurs de cristal vont éclore, car c'est le maître du destin qui décide seul quand cela se fera pour chaque entité. En attendant ce jour où les fleurs vont s'ouvrir dans toute leur splendeur, avant de se déraciner d'elles-mêmes du sol pour se laisser cueillir, Adamas et sa famille se plaisent d'accomplir leur devoir en arrosant ces petits trésors avec amour. Après les remerciements, Cana et Anax s'empressent d'aller rejoindre leurs amis dans un champ de blé. Leur père en profite pour dire à son épouse que le comportement de Cana change de jour en jour. Il se tient moins souvent en compagnie de son frère et il ne joue même plus de tour à personne. Il a vieilli sans doute. Tout de même, des rumeurs circulent à son sujet. Certains disent qu'ils l'ont vu passer au-dessus de la carrière sur le dos d'un dragon si monstrueux que personne n'aimerait voir celui-ci se poser dans leur cour. Adamas se dit disposé à oublier ses raconteurs, puisque Cana lui en aurait parlé si cela avait été vrai. Gracia baisse les yeux en disant que son fils a le droit d'avoir ses petits secrets. Adamas est tout de même inquiet. Il ne comprend pas pourquoi l'étoile de son fils n'était pas dans le ciel lorsqu'il la chercha l'autre jour. Il se proposa même d'aller voir le mur pour rapporter sa disparition, lorsque celle-ci réapparut de nouveau au-dessus de la carrière. Il ne sait vraiment pas où se trouvait son fils avant cela. Gracia a remarqué le même phénomène, sauf qu'elle sait déjà dans son cœur de mère que son petit canard possède des dons trop particuliers pour ne pas avoir deviné qu'il est ce missionnaire de la fin des temps. Son époux le sait également, même s'il fait semblant de l'ignorer.